Bonjour, nous sommes toujours à Esperanza pour l'émission Ziva prend le mic, qui l'année passée et avant était encore hors des âges. On a décidé de le renommer. Et alors, on a aussi Jack qui est venu.
Salut.
Et il y a Lulu qui va aussi nous faire la météo maintenant.
La météo du jour de Radio SA Florez. Des journées qui pètent à fond, pètent à fond, pètent à fond.
Aujourd'hui, il y aura des nuages, une goutte. Il y aura deux nuages, il y aura un soleil. Il y aura une grande goutte. Et là, le samedi, il y aura une petite goutte qui va venir et qui va trouver qu'il y aura deux nuages, un soleil et il fait 22 degrés. Et là, il est dimanche. Que là, il y aura du soleil et même des nuages et de nuages et du soleil. Après, il y aura une petite goutte. Il y aura des nuages, du soleil, il y aura des nuages et après il y aura un soleil. C'est fini.
Merci Lulu pour cette météo et donc on s'écouterait bien un petit morceau. Et donc c'est 100 grammes tête de c'est 100 grammes tête avec le morceau. Donc nous revoilà et maintenant il y a un nouvel invité dans la salle. Jérôme, vas-y, tu peux te présenter.
Bonjour, je m'appelle Jérôme, je m'occupe de la thématique et de l'action associative au Festival Esperanza.
Mais Jack, tu sais pourquoi est-ce qu'en fait c'est lui qu'on a invité et pas quelqu'un d'autre ?
Parce que c'est le chef thématique. Hein.
Ah, d'accord. Et au fait Jérôme, la thématique c'est le TTIP ?
C'est une des thématiques, tout à fait, oui.
Il y a quoi comme autre thématique ?
Il y a les réfugiés. Mais les deux thématiques sont dans une même campagne avec un même slogan. Et le slogan, c'est « Chassons les vrais monstres ».
Mais en fait, c'est quoi le TTIP ? Tu pourrais nous l'expliquer, s'il te plaît ?
C'est parti. Alors, pour comprendre le TTIP, il faut d'abord imaginer comment fonctionne un système économique. D'accord ? Jusque-là, ça va ?
Ça va encore.
Parce qu'en fait, le TTIP va réorganiser la manière dont l'économie fonctionne.
Mais pourquoi est-ce qu'on parle toujours de poulet à l'eau de Javel, comme exemple ?
Alors justement, j'y viens. Je refais une leçon de base sur comment fonctionne le marché, d'accord ? L'économie. Comment est-ce que tu peux avoir de l'argent dans ta poche et comment est-ce que tu peux avoir de la nourriture dans ton assiette ?
D'accord ? En travaillant.
Voilà, exactement, en travaillant. Imagine maintenant que tu es un travailleur. Mais ton métier, c'est de faire des frites. D'accord ? T'es quelqu'un qui aime bien faire des frites et t'as un frite-côte. Ok ? Jusque-là, t'es d'accord ? Et alors, même mieux que ça encore, toi, t'aimes tellement bien les frites que t'as envie d'avoir des bonnes pommes de terre dans tes frites. Ok ?
Ouais.
Et donc, t'as un petit champ dans un grand jardin où tu plantes des pommes de terre. Jusque-là, tu me suis ?
Oui.
Et tes pommes de terre, tu y prends soin. Enfin, tu fais en sorte de ne pas mettre trop de pesticides. Tu fais en sorte de ne pas en avoir trop pour ne pas les faire pousser trop vite. Et tu veux des belles et bonnes pommes de terre pour que tu aies les meilleures frites possibles à proposer à tes clients. Jusque-là, tu me suis ?
On te suit, je pense.
Excellent. Mais d'un autre côté, sur le marché de la frite, tu as des concurrents. Tu n'es pas le seul à faire de la frite en Belgique. On est d'accord ? Et notamment dans ces concurrents, il y a des concurrents étrangers. Ok, donc c'est-à-dire non pas des personnes comme toi, mais plutôt des entreprises qui ont dit nous en tant qu'entreprise, on va faire aussi des frites. Tu me suis toujours ?
Moi je te suis. Je sais pas Jack.
Bah, je sais ce que c'est une entreprise.
Oui non d'accord, mais pour l'instant tu.
Bah oui.
D'accord, on suit. D'accord.
Et donc du coup sur le marché, il y a des gens comme Iñaki qui font des frites. Tu as peut-être un ou deux employés pour t'aider. Et puis il y a des entreprises plus importantes.
Comme Nestlé ?
Non, oui, on va dire plutôt comme McDonald's, par exemple, okay, qui font aussi des frites.
Oui.
D'accord ? Et McDonald's, ils ont une grosse entreprise, toi, tu as une petite entreprise, parce qu'eux, ils ont beaucoup d'argent et ils ont beaucoup d'employés, d'accord ? Si ouais. Ce n'est qu'eux, en fait, ils veulent gagner beaucoup d'argent. Et pour gagner beaucoup d'argent, leur production de pommes de terre, même dans les faits, c'est pas eux qui produisent les pommes de terre, mais on va simplifier. Leur production de pommes de terre, eux, ils ne la font pas comme toi. Tu vois, ils n'ont pas un petit jardin où ils évitent d'utiliser des pesticides et où ils ont quelques employés. Non. En fait, eux, ils ont énormément, énormément de terre et ils ont des grosses, grosses machines. Ils ont très peu d'employés pour justement récolter ces pommes de terre et ils utilisent beaucoup, beaucoup, beaucoup de pesticides pour faire en sorte que leurs pommes de terre résistent à la pluie, résistent aux mauvaises herbes, résistent aux limaces et résistent à tout un tas de choses qui fait que leur production, ben, du coup, est plus efficace que la tienne. Parce que toi, ben, l'hiver, t'as pas de pommes de terre. T'en as seulement à la sortie de l'automne. T'as pas de pommes de terre pendant l'été. Et en plus de ça, toi, quand t'as des limaces, ben, tu dois les enlever à la main. Tu dois aussi enlever les mauvaises herbes à la main. D'accord ? Donc du coup, qu'est-ce qui se passe ? Il se fait que McDonald's, ton concurrent en termes de frites, quand ils produisent les pommes de terre, ça leur coûte beaucoup moins cher que toi. Revenu à la frite. Tu comprends ? Mmh. Une frite de chez McDonald's leur coûte peut-être 5 cents. Une frite produite chez Iñaki te coûte peut-être 1 euro. Parce que ça t'a mis beaucoup de temps, ça t'a mis beaucoup de travail. Tandis que chez McDonald's, eux, bah, ils n'ont pas la même manière de fonctionner que toi. Jusque-là, tu me suis ?
Oui.
Autrement dit, si ça leur coûte moins cher, les frites au magasin sont moins chères aussi. D'accord ?
Ce qui est logique.
Ce qui est logique. Parce que les gens qui vont acheter des frites, ils vont acheter des frites où ça ? Peut-être quand c'est bon, mais surtout quand c'est moins cher.
Oui.
D'accord ? Donc, y en a qui vont aller chez toi, mais il y en a beaucoup plus qui vont aller chez McDonald's.
Bah, oui. D'accord. C'est normal puisque c'est moins cher.
Exactement. Et donc, c'est pour ça qu'en fait, l'économie, elle est régulée pour faire en sorte que tu as des Iñakis comme toi qui veulent produire des frites de bonne qualité, qui sont protégées par le marché. Et donc, l'État dit, voilà, ici, en Belgique, on ne mangera que des frites qui n'auront pas reçu tel ou tel pesticide sur les pommes de terre, n'auront pas subi tel ou tel traitement à l'eau de Javel pour les nettoyer, tu vois. Et surtout, où les travailleurs qui auront produit les pommes de terre, qui auront amené ces frites dans les magasins, auront un salaire qui est minimum à 1200 euros. D'accord ? Tu comprends ?
Oui, mais ils les lavent à l'eau de Javel.
Ici, pour le moment, on les empêche de les laver à l'eau de Javel.
Ah d'accord, tu me rassures.
Voilà, exactement. Et comme ça, ça fait en sorte que McDonald's, qui est la grande entreprise, elle ne peut pas faire ce qu'elle veut. D'accord ? Tu me suis jusque-là ?
Oui.
Voilà. Maintenant, on en arrive au traité de libre-échange. Jusque-là, est-ce que tu es sûr que vous comprenez ?
J'ai une question.
Oui.
Mais s'ils trouvent autre chose pour nettoyer ?
Ils sont obligés de trouver autre chose pour nettoyer.
Mais oui, mais par exemple, d'autres savons que de l'eau Javel.
Ils sont obligés de prendre des savons, on va dire des savons écologiques pour pouvoir nettoyer les pommes de terre. On va dire que c'est obligatoire chez nous.
Mais
d'accord ?
J'ai une question. Mais si on était sur un supermarché pour acheter des frites, et après on arrosait les pommes de terre.
Alors, Iñaki par exemple, lui, il va aussi vendre ses frites au supermarché. McDonald's aussi va vendre des frites au supermarché et va les vendre dans ses restaurants. Mais le prix au magasin, chez Iñaki, sera plus cher que celui de McDonald's. Mais le fait est que, comme il y a des règles qui protègent l'économie, on va obliger McDonald's à produire ses pommes de terre de pas n'importe quelle manière. D'accord ? Donc ce qui va quand même augmenter un petit peu le prix de ses frites. Et elles seront de meilleure qualité que ce qu'elles auraient été s'ils avaient fait n'importe quoi. Jusque-là, tu me suis ou pas, Iñaki ?
Oui, mais j'ai aussi une question. Vas-y. Parce que je sais que ça sort un peu du contexte. Mais au lieu d'enlever les limaces à la main, il y a aussi des pesticides biologiques.
Il y a des pesticides biologiques.
Mais comme du sel.
Effectivement, voilà. Il y a des pesticides biologiques. Mais disons que McDonald's ne veut pas utiliser des pesticides biologiques parce que ça prend quand même beaucoup plus de temps que les pesticides normaux. Mais j'en suis pas encore arrivé au traité de libre-échange.
Oui, vas-y.
Le traité de libre-échange, ce qu'il va faire, c'est qu'il va faire en sorte que tout le monde, tous les acteurs économiques, quelle que soit la partie d'où ils se trouvent, vont avoir les mêmes règles pour produire leurs produits. D'accord ?
Oui.
Le TTIP, c'est un traité entre les États-Unis et l'Europe. D'accord ? Les États-Unis, en fait, ils ont des normes européennes, notamment en termes de pesticides, notamment en termes de revenus minimum pour les travailleurs. Tu vois ? Le fait de payer un travailleur au moins autant.
D'accord.
Qui sont moins importantes qu'en Europe. D'accord ? En Europe, si tu veux, on a des secteurs qui sont encore fort protégés. notamment au niveau environnemental, notamment au niveau écologique, notamment au niveau de la santé, et notamment aussi au niveau des conditions de travail. Okay. Et le fait est qu'un traité de libre-échange homogénise ces règles. Et généralement, plus que généralement, toujours, les revoit à la baisse. Ce qui fait que, entre les États-Unis et l'Europe, en fait, il va y avoir les mêmes règles pour produire.
Donc, par exemple, une frite de chez, Quick là-bas, ouais. Aux États-Unis, reviendra au même prix que mes frites.
Exactement.
D'accord. Mais les miennes seront plus basses.
Les tiennes, en fait, resteront au même prix parce que tu n'auras pas trop le choix. Ça va être compliqué, là. Alors, le fait est que maintenant, tu vas avoir... Maintenant, on est... la situation de maintenant, si le TTIP passe, qu'est-ce qui va se passer? Tu vas avoir des acteurs économiques comme McDonald's, par exemple, qui pourront faire et produire leurs pommes de terre et leurs frites comme elles veulent. Okay, c'est-à-dire justement en mettant des pesticides, c'est-à-dire justement en utilisant autant de machines qu'elles veulent et en sous-payant les travailleurs s'ils veulent. D'accord? Et donc, du coup, tu vas avoir, sur le même marché, il n'y a qui va produire ses frites de manière super correcte, et un producteur comme McDonald's qui va produire ses frites de manière totalement correcte, mais qui va être du coup beaucoup, beaucoup moins cher en magasin. Du coup, ce qui va se passer, c'est que McDonald's, dans le magasin, va avoir des frites qui seront pas chères et de mauvaise qualité. Les gens vont acheter ça parce que c'est pas cher. Et Inyaki ne pourra plus vendre aucune frite parce que personne ne va acheter ses frites parce qu'elles sont trop chères par rapport à McDonald's.
Mais oui, mais de toute façon, McDonald's ne peut pas. Ah, mais si, puisque le TTIP est accepté.
Tu vois ce que je veux dire?
D'accord.
Il n'y a pas que lui qui doit faire ça. Il y a aussi Jack et moi.
De quoi qui doit faire quoi?
Il ne doit pas travailler tout seul sans.
Non, mais en fait, imagine, toi, tu es l'associé de Inyaki dans les frites.
Bah oui.
Ouais, tu travailles avec Inyaki dans la frite.
Bah oui. Et Jack, il est aussi là?
Jack, il est aussi là, oui.
En fait, c'est qu'une image, hein, tu sais, avec Inyaki.
Ouais, c'est une image, je sais. Ça, je sais.
Est-ce que jusque-là, Inyaki, tu comprends la différence entre une situation normale et la situation où il y aurait un libre-échange?
Là, je comprends bien. Là, okay. Ça se voit bien. Et alors, on pourrait... Tu veux faire une petite pause? T'es encore,
on va faire une pause.
T'es encore un peu... Ça va, je suis bien parti.
Non, tu
dois faire une petite pause pour que tu sois en forme.
Exactement, on va faire une pause.
D'accord. Bah, on va s'écouter les ogres de Barbac.
Ouais, des Barbac.
Avec le premier, le premier numéro du CD.
Qui a bouffé mon pied?
Je me souviens du temps où l'on jouait pour 2 francs. Au mieux le soir contre un coup à boire, le sourire d'une douce fille comme pour boire. Je me souviens de ce temps, pauvre mais pas mécontent, de remplacer mon manque d'argent par le sourire de tous ces gens. La vie comme elle venait si bien, qu'on jouait sur les marchés, dans le métro à s'en essouffler, dans les bars, les cafés, sur les rues, les pavés. Je me souviens de ce temps, fatigué mais pas mécontent, de remplacer mon sommeil par mille et une merveilles. Qui vivra s'en verra, et bientôt la nuit s'improvise un comptoir de tous ces beaux parleurs en discussion d'ivrogne. On a refait 1000 fois le monde et toutes ses trognes. Je me souviens de ce temps, alcoolo mais pas mécontent, de remplacer la vie, le mauvais temps, par des histoires de bouts dormants. On partait derrière Châtelet et Halles, le squat était grand et fleuri. La suite est un petit peu banale, les voisins, le bruit, les flics et tout ce qui s'ensuit. Je me souviens de ce temps, vagabond mais pas mécontent, de remplacer mon logement par 1000 notes de mon instrument.
orange qui passe à l'horizon, le temps d'un sourire et l'on change tellement. La Vietnamienne a vendu sa toison, la nostalgie nous reprend à mettant.
On ne devrait vivre qu'une minute et demie, le temps du premier baiser et du premier demi. N'avoir que la joie sans souffrance, sans retour, sans cette âme qui s'en va pour oublier l'amour. Alors le pouce tendu bien haut, on est parti porte d'Orléans. Chacun pour soi sa chance et à bientôt, au hasard d'une journée, à jamais, à demain. Je me souviens de ce temps, et qui d'ailleurs pas si lointain, a remplacé le présent d'un avenir un peu grisant. Je me souviens de ce temps, et qui d'ailleurs pas si lointain, a remplacé le présent d'un avenir un peu grisant.
Et donc, nous sommes encore avec Jérôme pour parler du TTIP. Donc, en gros, si on résume, un gros résumé, ça ferait quoi de ce qu'on vient de dire ?
Alors, le gros résumé, ça ferait que, par exemple, en période de non-TTIP, pour le moment, McDonald's qui veut produire des frites ne peut pas venir produire ses frites n'importe comment, de n'importe quelle manière, et ne peut pas les vendre de n'importe quelle manière en Europe et en Belgique. Si le TTIP passe, ils pourraient venir racheter des terres en Europe, produire leurs pommes de terre de manière un petit peu dégueulasse, et afin de nous donner des frites pas très bonnes, mais surtout pas chères, ce qui aurait deux conséquences. Un, pour notre santé, c'est pas très bon, et deux, ben, il y aurait plus d'autres producteurs qui produiraient des frites de bonne qualité.
Pourquoi ?
Parce que justement, ils auraient l'autorisation de produire des pommes de terre comme ils voudraient.
Et, mais en fait, t'avais dit en Belgique et en Europe. La Belgique est en Europe.
Oui, tout à fait. Mais c'était pour donner mon exemple de tout à l'heure.
Mais en fait, le TTIP...
On doit mélanger les frites avec des pommes de terre.
Non. On coupe des pommes de terre pour faire des frites.
Mais oui, c'est ça.
Petite espèce culinaire. Donc, ma question, mais en fait, le TTIP, s'il passe, c'est en Belgique ou en Europe ?
C'est en Europe.
D'accord.
Mais donc en Belgique aussi. Par exemple, il y a eu d'autres traités de libre-échange. Pour vous donner un autre exemple pour que tu comprennes mieux, Yannick. En fait, il y en a plein, par exemple, entre l'Europe et des pays africains. Ok ?
Ça pourrait être accepté ?
Ben justement non, parce que pour l'Europe c'est toujours à son avantage. En fait, les traités de libre-échange, ils sont toujours à l'avantage de celui qui est puissant économiquement, du plus fort. Mmh. Ok ? Et ici par exemple avec l'Afrique, ce qui se passe par exemple pour la pêche au Sénégal. Le Sénégal a signé un traité de libre-échange avec l'Union Européenne. Ce qui fait que l'Union Européenne peut venir pêcher des poissons sur les côtes sénégalaises.
D'accord.
Et donc, il y a des bateaux norvégiens, des bateaux espagnols, des bateaux français qui viennent avec des grosses armatures, des gros bateaux, et qui viennent prendre le poisson des petits pêcheurs sénégalais dans les mers sénégalaises.
Oui.
Parce que ça a été accepté dans le traité de libre-échange. Or, s'il n'y avait pas eu ce traité de libre-échange, il aurait été interdit aux gros bateaux européens de venir voler le poisson des petits pêcheurs sénégalais.
D'accord, mais pourquoi est-ce que tu dis voler ? Puisqu'ils ont fait un traité de libre-échange, normalement, ils peuvent. Donc, je vois pas l'intérêt d'utiliser le mot voler.
T'as raison.
Non, échange, ça veut dire que l'un doit aussi donner. Là, c'est il vient prendre. Il n'a rien donné en échange.
Ouais.
J'ai bien suivi.
Alors, effectivement, t'as raison, Iñaki. Dans un terme légal, il ne vole rien. C'est ce qui a été accepté sur le papier. Moi, je parle, quand je dis voler, c'est vraiment d'un point de vue moral. Parce que les petits pêcheurs n'ont absolument pas les moyens de concurrencer les gros bateaux européens des côtes africaines. Et donc, qu'est-ce qui se passe ? Il se passe que tous les pêcheurs, comme tous les agriculteurs d'ailleurs, parce que c'est la même chose, du coup, n'ont plus de travail, puisqu'ils ne peuvent plus vendre leurs poissons. Et il n'y a que du poisson peu cher qui est vendu par les grosses par les grosses entreprises européennes. Avec, je donne un dernier exemple. Pour les traités de libre-échange sur l'alimentation, par exemple, sur l'agriculture, entre des pays africains et des pays européens, les petits paysans africains, il faut savoir que, par exemple, au Sénégal, comme dans beaucoup de pays africains, 80% de la population, c'est des paysans. C'est des gens qui travaillent la terre, c'est des agriculteurs. D'accord ? Mais ces pays-là ont signé de nouveau un traité de libre-échange avec l'Union européenne. Et donc, en fait, l'Union européenne a des entreprises, des produits sur les marchés africains, sur les marchés sénégalais. Genre, ils vont vendre du... Ils vont vendre, encore une fois, ils vont vendre des pommes de terre. On parlait du poisson tout à l'heure, ils vont vendre leur poisson. Et donc, les pêcheurs et les petits paysans du Sénégal, eux, bah, ils ne peuvent pas concurrencer les produits qui vont arriver d'Europe parce que ces produits-là qui arrivent sur les marchés africains sont pas chers du tout, quoi. Et c'est comme si tu avais un Hulk qui se battait contre une souris. Et évidemment, du coup, la souris, elle fait pas long feu.
Mais pourquoi est-ce qu'on parle sous que du TTIP et du CETA ? Pourquoi est-ce qu'on parle pas des autres ? Parce que t'as dit qu'il y en avait plein d'autres, mais on n'en parle pas. Il n'y a que ici le TTIP et le CETA qui a fait « Attention, au secours !»
Et c'est une très bonne question. Ça, c'est typiquement l'égocentrisme européen. C'est-à-dire que nous, on a fait signer des... quand je parle d'égocentrisme, c'est comme un peu de l'égoïsme, si tu veux, Niaki. L'Union européenne a signé des traités de libre-échange en étant le parti le plus fort, tu vois, en étant le plus fort avec des pays africains. Et là, effectivement, les Européens, eux, n'en parlent pas parce que en fait, ça avantage généralement les pays les plus forts, donc ça a avantagé les entreprises européennes et ça a avantagé les Européens. Mais ici, on se rend compte qu'en fait, c'est nos voisins. C'est moi en tant que travailleur, c'est mon voisin agriculteur, c'est nos services publics à nous qui vont être touchés, c'est la culture, c'est des subsides alloués à l'État qui vont être coupés, c'est des normes écologiques, etc., qui vont nous toucher, nous. Quand ça touchait les autres, c'était pas grave, on s'en foutait. Mais maintenant, quand ça nous touche, nous, bah, c'est un peu plus grave. Et donc, il y a plein de gens qui se réveillent en se rendant compte ce que ça va provoquer chez nous, mais ce que ça provoque déjà ailleurs.
Bah, alors, pourquoi est-ce qu'ils disent aux pays africains « C'est bon, on vous laisse la paix, on arrête le traité de libre-échange, comme ça vous pouvez regagner vos droits
». En fait, parce que là, l'Union européenne, pour le moment, elle est plutôt pour le traité transatlantique. Donc elle était pour les traités de libre-échange avec l'Afrique et l'Union européenne, elle est pour le traité transatlantique. Alors la question, c'est pourquoi ? Pourquoi est-ce que tu as toute la population européenne qui est contre, mais l'Union européenne dans les pays et les gouvernants qui sont pour ? Et c'est là qu'on en arrive dans du jeu politique. Il y a des gens qui nous dirigent.
Du badminton ? Du tennis ? Squash ?
Mais j'ai une question.
Jeu d'échecs ?
Et il y a des gens qui nous dirigent et il y a nous. Et les gens qui nous dirigent et nous, on n'a pas toujours les mêmes intérêts. Et en l'occurrence, effectivement, les gens qui nous dirigent, apparemment, ils auraient intérêt à faire passer le TTIP parce que, bon, il y a plusieurs théories, hein, mais la première théorie, c'est de dire qu'ils sont soumis à une pression des lobbies. Et les lobbies, c'est des entreprises qui protègent et qui défendent les grandes entreprises. Et les grandes entreprises, elles ont besoin que ce traité transatlantique passe.
Oui, mais...
Dans un bateau et on mettait une filette et y avait la pêche qui était et on pêchait dans l'eau.
Jacques, qu'est-ce que tu as à répondre à ça?
Non, j'ai pas trop compris sa question.
Iñaki.
Moi ce que j'ai compris, je sais pas si j'ai bien compris. Moi ce que j'ai compris, c'est que si on pêche dans un bateau avec un filet, pourquoi est-ce qu'on partagerait pas ? C'est ça ta question ?
Ben oui.
Parce qu'il y a une concurrence entre les différents bateaux.
Justement, c'est ce que j'allais dire.
Ouais.
C'est comme t'as deux rois qui ont la même terre, mais ils veulent la terre de l'autre. Et alors, au lieu de partager, ils veulent être le roi des deux. Alors, ils vont faire la guerre, c'est un peu ça.
Ben oui. Ben,
c'est pas faux, c'est un peu ça, ouais.
Mais ça, c'est sur des petits bateaux en bois.
Justement,
les petits bateaux en bois africains contre les gros bateaux en fer européens.
Mais oui, c'est ça.
C'est ça. C'est tout à fait ça. Et c'est ça. Et en fait, les traités de libre-échange autorisent ça. Alors qu'avant, ça ne les autorisait pas. Et donc les petits pêcheurs en bois africains, eh ben, ils pouvaient encore vivre de la pêche et nourrir les gens qui les entouraient.
Mais au fait, Jack, t'es sûr qu'avant tu connaissais pas le TTIP ?
Sûr.
D'accord.
Mais j'ai une question, mais si on pêchait, si on fait tomber une petite pêche, ben, on aurait cherché qu'il y a un requin qui est mangé.
Ah, les requins dans la mer, c'est encore une autre histoire. Est-ce que t'as encore d'autres questions, Iñaki ?
Moi, je ne pense pas. Je pense qu'on peut continuer.
Est-ce que t'es capable de me faire un résumé de ce qu'on a dit jusqu'à présent ? Dans les grandes lignes, pour voir où on en est.
Jusqu'à présent, en gros, le TTIP, comme j'ai dit hors antenne, c'est en gros pas pour... ça va pas faire du bien à la Belgique et aux pays européens.
Mais à quelle partie des pays européens ?
Bah, en gros, pour un peu les producteurs locaux, ils vont se faire un peu comme une carotte contre des racines. Ils vont se faire enlever, on va leur dire au revoir, vous êtes trop cher, barrez-vous, en gros. C'est un peu ça.
Ouais, tout à fait, c'est ça. En tout cas, le marché le fera lui-même, ouais.
Mais pourquoi ça fait ça après ?
Si j'ai bien compris, c'est parce que puisque les personnes... Qui vendent des tomates. On va partir sur les tomates.
Partons sur les tomates.
C'est par exemple à 10 cents de la tomate.
Mmh.
Et qu'il y a quelqu'un qui produit dans un petit potager tranquillement ses tomates, il les vend à 50 cents. Parce que ça a mis plus longtemps.
Mmh.
Donc les personnes vont se dire « Oh là là, chez lui c'est super cher !» 50 cents alors que c'est 5 cents. Oh, bah moi je vais aller chez celui d'à côté, franchement. C'est moins cher, ça va être mieux.
Et alors, sur cette tomate...
Pour le porte-monnaie.
Exactement. Sur cette tomate produite à 10 cents, on peut voir plusieurs conséquences, notamment d'un point de vue écologique. En fait, la tomate produite à 10 cents, elle utilise d'office des pesticides qui vont abîmer la terre. Et qui vont abîmer les nappes phréatiques, l'eau qui est en dessous, et qui va pas permettre à la terre de se régénérer. Ensuite, d'un point de vue de la santé, cette tomate-là qui aura été produite avec du transgénique, ben, du coup, elle sera moins bonne aussi pour la santé. Et puis, on peut même dire qu'au niveau du travail, il y a quelqu'un qui aura produit cette tomate et qui aura été mal payé, qui n'aura pas eu de congé, qui aura eu un salaire super bas, qui n'aura pas eu de protection au cas où il tombait malade. Et toutes ces règles-là qui n'existent pas encore chez nous parce que c'est protégé, risquent de sauter si le traité de libre-échange s'amorce.
Les OGM, pas.
Si on arrosait des tomates et on était sur un supermarché des tomates.
Il a posé une question.
Si il achète des tomates.
Et qu'on est sur un supermarché des tomates.
Eh ben, il y aura plusieurs marques, donc
faut les différencier.
Un livre sur les plantes, quoi.
Ouais. Et la plupart...
Mais avec les marques des tomates.
Et la plupart des gens vont essayer de trouver, ils vont regarder, par exemple, sur 10 concurrents, ils vont en regarder 7, par exemple, et ils vont regarder, oh, celui-là, il coûte combien ? Ouh, 1 euro la grappe.
Mm.
Et ceux-là, oh, 57, oh, ça c'est pratique. Ah bah, je vais aller chez eux, tiens.
Et alors, il y a un autre truc sur le TTIP, c'est un truc supplémentaire encore à comprendre, mais c'est assez compréhensible. Si, par exemple, le TTIP passe en Europe, d'accord ? Imaginons, attends, j'explique un truc, et puis tu vas me dire si tu comprends ou pas. Ouais, à mon avis, tu poseras quand même une question. Imaginons que le TTIP passe en Europe, et que la Belgique dit « Ah non, moi j'aimerais quand même que ma production de tomates, on n'utilise pas l'OGM-C parce que ça détruit la terre et ça détruit l'eau qu'il y a en dessous de la terre. »
Bah, il peut le faire, c'est son droit.
Voilà, exactement. L'entreprise qui produit les tomates avec cet OGM-là, elle va dire « Ah ben oui, c'est mon droit. » Et qu'est-ce qu'elle va faire ? Elle va attaquer la Belgique en justice parce que les traités libre-échange s'accompagnent toujours de tribunaux privés qui vont pouvoir arbitrer un conflit entre un État et une entreprise. Et l'entreprise peut dire « Je me plains de la Belgique parce qu'elle a pondu une loi qui nous interdit d'utiliser l'OGM-C. Et moi, ça m'empêche de produire mes tomates comme je veux. » Et si le traité de libre-échange passe, il y a très peu de chances que la Belgique gagne son procès. Et si elle perd son procès, bon, non seulement les tomates seront produites avec l'OGM-C, mais en plus de ça, la Belgique devra payer des dédommagements, et c'est des milliards et des milliards d'euros. Il y a déjà eu d'autres exemples de ce genre.
Ils veulent la ruiner ou quoi?
Eh ben, ils sont pas contents, c'est comme t'es jaloux, alors tu vas faire du mal aux autres.
Merci, mais franchement, des milliards d'euros, pourquoi est-ce qu'ils disent pas plutôt 100 000 euros? Enfin, voilà, là c'est... Enfin, là, c'est des milliards d'euros, je pense que là, c'est un peu exagéré.
Ben, en fait, ils vont dire, entre le temps que la loi est passée et maintenant, il est passé 6 mois, je n'ai pas pu produire X milliards de tonnes de tomates, fois 10 cents, ça me fait autant de pertes. Et donc, ce sera le dédommagement que devra payer la Belgique.
Mais si on payait un papa, ce serait rigolo.
En quoi?
En papa. Si on payait un papa.
En papa?
Ouais.
Mais enfin, moi je suis une maman, lâchez-moi.
Et on payait aussi une maman.
De...
Ah, au secours, je veux vivre à l'air. Ah.
De la même manière que par exemple, il y a déjà eu plusieurs pays qui ont eu ce problème-là avec des entreprises, et ça pourrait également venir en Europe et en Belgique pour les paquets de cigarettes. C'est le meilleur exemple. La Belgique et les pays européens d'ailleurs ont mis en place des campagnes de prévention pour dire aux gens que c'était pas bien de fumer.
Mais pourquoi?
Ça m'égousse.
Quoi?
Pourquoi c'est pas bon de fumer? Parce que au départ, chez les Indiens, c'était juste des produits naturels. Alors on peut pas dire que c'était vraiment mauvais pour la santé, mais il fallait pas trop le faire. C'était le calumet de la paix. Puis les cow-boys ont bien aimé. Alors ils ont raconté que c'était bon pour la santé à tout le monde. Et alors après, il y a eu des marques qui ont mis n'importe quoi dedans en pensant se faire encore plus de fric.
Voilà, c'est à peu près ça. Et donc du coup, on a eu des campagnes pour dire aux gens que c'était pas bien de fumer, qu'il fallait fumer moins, etc. Bon, les gens fument toujours autant, mais c'est pas grave, au moins les campagnes existent. Eh bien, une entreprise s'est déjà plaint, sous un traité libre-échange, du fait qu'il y avait des campagnes qui invitaient les gens à ne pas fumer. Et en Belgique, ce serait la même chose. On interdirait par exemple à la Belgique d'organiser des campagnes de santé pour prévenir les gens que fumer c'est pas bien. Parce que l'entreprise considérait que les gens fumeraient moins et donc que ce serait un problème pour sa marge bénéficiaire, ou en tout cas son bénéfice et sa vente de cigarettes.
D'accord, mais il fait des millions d'euros, mm-hmm. Et alors si c'est quelques dollars qui partent, je vois pas le problème.
Oui, et aussi le truc, en gros... Si ils font ça et qu'il y a un gros producteur qui dit « Ah non, non, moi, je veux pas, je veux qu'ils arrêtent. » Mais alors, à la fin, niveau santé, ça se dégradera encore plus niveau cigarette. À la fin, il y aura plus de... Je sais pas, il y a plus de personnes qui mourront à cause de fumée. Et après...
Ils perdront tous leurs clients, et là, au lieu d'avoir perdu que quelques dollars, ils perdront tous les dollars.
Et ben voilà, fin de l'histoire, au revoir la Belgique.
Mais il y aura de la fumée qui vont jusqu'à à les maisons des autres, en fait.
Tout à fait. Et d'ailleurs, cette fumée, ça va les empêcher d'avoir une bonne santé.
Et justement, moi, on m'a expliqué une fois qu'en fait, il y a les personnes qui fument pas et leurs voisins qui fument, bah en fait, à un niveau, ils fument, mais passivement. Enfin, ce qu'on dit passivement, ils fument pas, mais ils reçoivent la fumée.
Des autres. Ouais, tout à fait.
Donc, à la fin, si tout le monde, s'il y a beaucoup de personnes qui fument, bah les autres auront quand même de la fumée de cigarette, et à la fin, ils vont finir par mourir comme les autres.
Ouais, oui, tout à fait.
Et ce sera la fin du monde. Apocalypse.
À cause de quoi l'argent?
À cause de quoi traité transatlantique?
Et donc, du coup, maintenant, tu comprends mieux... Est-ce que tu comprends mieux les enjeux du traité transatlantique, maintenant, Iñaki? Jack?
Oui.
Maintenant, je comprends mieux.
Il a une question. Arrête de dire mais, on essaye de t'écouter.
Mais
il y avait des... J'ai vu des cigarettes atlantiques.
Électroniques ?
Électroniques qui sentaient la bonne santé.
Des cigarettes électroniques qui sentaient la bonne santé. Ouais. Bah oui, peut-être. On n'est pas encore tout à fait sûr que c'est bon pour la santé. Mais en tout cas...
Mais ça fait pas de fumée.
En tout cas, certains disent que c'est déjà meilleur que des cigarettes.
Tu n'empoisonnes pas les autres.
C'est vrai.
Au moins, c'est de la vapeur d'eau,
ouais,
qui en sort.
Exactement.
C'est pas tout ce qui est toxique, enfin je sais pas quoi, du goudron, du patati, du patata.
Ouais, bravo, vous avez mis dans mon air des mauvaises choses. Faites avec du goudron, des plumes, je sais plus quoi, et d'autres trucs, etc.
Mais donc au-delà des cigarettes maintenant.
Au moins il y aura une nouvelle route grâce à des fumées de cigarettes qui tomberont sur le sol et hop, et une petite couche de goudron en plus.
Ah non, c'est mon parquet.
Au-delà des cigarettes, est-ce que t'as d'autres idées en tête qui pourraient sur lesquelles tu te poses encore des questions, qu'est-ce qui adviendrait si le traité transatlantique passait avec telle ou telle chose. Ou alors tu sais répondre à tes questions toi-même.
Mais en fait, à part ça, il y aurait d'autres
problèmes. Il y a un autre truc qui est encore un petit peu plus compliqué à comprendre, c'est concernant les services publics. Mais là, je ne sais pas si je m'embarque là-dedans. Mais on peut considérer, par exemple, que on va prendre le transport en commun. Le transport en commun, c'est un service public. C'est une entreprise de l'État, d'accord ?
Oui.
En fait, l'entreprise de l'État, elle a pour but de donner un service pas trop cher aux citoyens pour qu'ils puissent se déplacer correctement. Jusque là, tu me suis ?
Je te suis. Même donc, si les types, parfois, c'est pas ça.
Attends, je termine ça. Et donc, cette entreprise publique, par exemple la SNCB pour les trains, elle a comme mission, en fait, de ne pas faire du bénéfice. Sa mission, c'est juste de rendre service aux usagers, aux citoyens, faire en sorte que les citoyens puissent se déplacer, rentrer chez eux, aller au travail. D'accord ?
Oui, bah, bon. Du bénéfice, c'est facile, hein, avec toutes ces grèves.
Oui, bon, c'est encore un autre débat.
C'est un peu du au lieu que ça fasse du bonus, ça fait du malus, hein.
Ouais. On y reviendra juste après si tu peux. Mais la différence entre un service public et une entreprise privée, c'est que le service public, lui, ne doit pas nécessairement faire de bénéfices. Il doit pouvoir être à l'équilibre, mais il peut même être déficitaire parce que l'État donne de l'argent pour faire en sorte que ça fonctionne, tandis qu'une entreprise doit faire du bénéfice. D'accord ?
D'accord.
Attends, je termine vite fait mon dernier exemple. Si le traité transatlantique passe, en fait, c'est des secteurs qui vont, ce qu'on appelle, vont subir une libéralisation. Ça veut dire qu'en fait, sur le marché des transports publics, vont pouvoir apparaître et naître des transports privés. Tu me suis jusqu'à là ?
Oui, des transports privés, donc taxis en gros.
Non, des compagnies de train qui n'appartiennent plus à l'État.
Ah d'accord, c'est quasi... allez, c'était quoi encore l'histoire des taxis de particuliers ?
Uber.
Ouais. Ça, c'est un peu ça.
C'est un peu ça.
C'est un peu
ça, si tu veux.
Uber version deux fois plus gros.
Voilà, c'est un peu ça. En Angleterre, par exemple, c'est un secteur qui a été libéralisé. Si tu veux, en Angleterre, il y a plusieurs compagnies de train. Et ces compagnies de train ont pour but de faire du bénéfice. Okay, elles n'ont pas eu pour but. Il n'y a plus d'entreprises publiques qui ont pour but de donner un service aux citoyens. Ok ?
Donc en gros, eux... qu'il y ait des problèmes sur les voies ou pas, ça leur intéresse pas, eux. Ce qu'il leur faut, c'est des sous, en point, c'est tout.
Voilà, exactement.
Et la sécurité, à la porte.
Alors, ce qui se passe, la première chose qui se passe avec des entreprises qui vont sur le marché du transport public, c'est qu'en fait, ils vont supprimer des zones où il n'y a pas beaucoup de gens qui descendent du train. Des petites gares, des petites régions où il y a, en fait, effectivement, quelques travailleurs qui doivent aller travailler, qui doivent prendre le train, mais très peu, pas assez, en tout cas, pour rentabiliser le passage de leur train. Et donc, en fait, la première chose qui se passe à ce moment-là, c'est une suppression des petites gares et des endroits où les gens sont plus isolés.
Ce qu'il faudrait faire, c'est... Par exemple, pour le marché de nourriture, on fait un marché genre, on arrête de vous dire que c'est mauvais et tout, vous faire une mauvaise pub, si vous ne mangez plus que ça à vos repas.
Et aussi...
Là, ils n'oseront pas.
Le truc, je pense à un truc, mais si le TTIP passe, le RER continue ou il est calé ?
C'est une très bonne question. À mon avis, même les autorités belges n'ont pas la réponse. Déjà, même sans le traité transatlantique, on n'est même pas sûr que le RER continuera.
Parce que déjà, 60% à la Flandre et 40% à la Wallonie, j'ai l'impression que c'est plus la Wallonie qui en a besoin, hein, des 60. Non, mais franchement.
Ouais, mais je connais un dessin animé où il y a des travaux. Et il s'appelle Scoop, les travaux, avec tous ses amis.
Donc voilà, Iñaki, est-ce que tu as encore des questions par rapport au traité transatlantique ?
Je ne pense pas. Je pense que là, pour le traité transatlantique, on ne peut pas être plus clair.
Ah, bah c'est cool. Merci, Iñaki. je pense que j'ai pas toujours été clair, mais au moins si t'as compris l'enjeu.
Au moins le plus gros est expliqué.
Le plus gros est expliqué, c'est cool.
Seul est arrivé.
Ouais.
Ouais, mais si on parlait un petit peu de travaux.
Non.
Les travaux, si tu veux, on pourra parler de ceux de l'abbaye le dernier jour, d'accord? Le dernier jour d'Esperanza, d'accord?
Bon, d'accord.
T'attendras.
Et donc, maintenant, je pense qu'on a terminé. T'as d'autres questions, Jack?
Non.
Eh ben, je pense qu'on a fini. Ben, merci, Jérôme.
Merci à vous.
Et merci en fait à tout le monde. Et aussi à Dimitri, qui est à la technique. Merci. Et alors, pour clôturer...
Merci à Saul d'être arrivé en retard.
Mais c'est pas grave, hein.
Ouais, c'est pas grave, je
veux. Merci à mon papa.